Bonsoir et bienvenue dans Onde Noire, l'émission Polar, qui est toujours la plus rock de la bande FM.
Enfin, c'est toi qui le dis. Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne.
Et sans plus attendre, on va rejoindre Jean-Marc Lahérère. Jean-Marc, bonsoir.
Bonsoir.
Et ça va être une première partie de première partie espagnole, je crois.
Oui, espagnole, enfin, européenne même, mais ça, on vient d'Espagne. On va parler du dernier roman de Victor del Árbol. Il s'appelle Toutes les vagues de l'océan. Il est publié chez Actes Sud et traduit de l'espagnol par Claude Bleuton. Donc, Victor del Árbol, on le connaît maintenant en France. C'est son troisième roman. Il avait fait sensation avec La tristesse du samouraï, le premier.
Oui, ça avait été vraiment un gros succès.
Oui, il avait confirmé, mais on avait peut-être un peu moins parlé avec La Maison des Chagrins, le second. Et le voici qui revient donc avec Toutes les vagues de l'océan, qui est de nouveau un polar, bien entendu. Il va y avoir des meurtres, il va y avoir des morts. Et comme dans les précédents, les problèmes sont ancrés dans un passé espagnol, mais pas seulement. Donc, on démarre en 1933, en fait, avec Elias Gil, qui est un jeune communiste espagnol. À l'époque, en fait, avant 36, il n'a pas beaucoup. Le Parti communiste est assez petit, mais lui, il a été envoyé il y a une vingtaine d'années à Moscou pour se former avec des jeunes qui viennent un peu de partout en Europe, de France, d'Écosse, d'Angleterre. Et donc, il arrive là-bas très enthousiaste et il se trouve qu'il est enthousiaste mais naïf. Et quand il voit des choses qui ne lui plaisent pas, qui ne lui semblent pas, cohérentes avec ce qu'il croyait être le communisme, et bien, il écrit à son père pour lui expliquer, son père qui est un ouvrier communiste des Asturies. Et quand il écrit, bien entendu, ses lettres n'arrivent pas, elles sont interceptées avant même d'être postées. Et c'est comme ça qu'il se retrouve déporté, et envoyé vers l'horreur d'un des premiers goulags sur l'île sibérienne de Nassino. Et là, il va se retrouver à affronter un prisonnier de droit commun, Igor, qui lui est quelqu'un qui ne reconnaît que la force et que son bon vouloir. Ils vont s'affronter une première fois, et il s'affrontera souvent par la suite, puisque là, ils vont arriver à s'échapper tous les deux séparément, ils vont encore se croiser, et puis Elias Gil s'échappe quand même. Et en 1967, Elias, qui était revenu en Espagne, qui est un héros de la guerre civile, qui a écharpé aux purges franquistes, il a deux enfants. Un garçon et une fille. Et puis il disparaît le soir de la nuit de la Saint-Jean, des environs de Barcelone. Il disparaît définitivement. Et ensuite, on se retrouve en 2002, où son fils Gonzalo n'a plus de nouvelles de sa sœur Laura depuis des années. On apprendra pourquoi après. Et là, il est contacté par un policier qui lui dit que Laura vient de se suicider après avoir torturé et tué un truand russe qu'elle soupçonnait d'avoir enlevé son fils. Gonzalo, il est un peu mou, c'est un avocat, qui est un petit avocat, marié à une femme très riche, qui subit son beau-père, qui subit tout ça. Mais là, pour une fois, il va décider qu'il ne veut plus subir, il ne croit pas cette histoire. Il va vouloir enquêter et ça va faire remonter à la surface beaucoup de choses qui expliquent la disparition d'Elias en 1967, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé même après. C'est tout ça qui va remonter dans cette enquête. Et donc le livre est fait d'aller-retour vers ces trois époques, 33 et la suite, 67, le moment de la disparition, et puis 2002 quand Gonzalo enquête. Voilà. C'est très ample, c'est touffu,
c'est un gros roman,
hein, de plus de 600 pages.
Voilà.
Et les premiers romans de Victor del Árbol, ils étaient déjà très touffus, très complexes, très très riches comme ça. Et là, je trouve que il a passé un cap quand même, parce qu'il a gardé cette richesse, il a gardé ça, il a gardé toute cette puissance qu'il avait, mais je trouve qu'il a énormément gagné en fluidité, que c'est beaucoup plus maîtrisé. Quelquefois, on se perdait un tout petit peu dans les premiers quand même. Alors ça passait parce qu'il y avait la puissance, parce que c'était...
Il y avait quand même un souffle dans tout ce qui était la trame historique. Enfin, tout ce qui, quand il racontait l'histoire, il y avait quand même un certain souffle qui donnait une belle qualité à la narration quand même.
Ah oui, oui, exactement. Mais là, en plus, je trouve qu'il a gagné il a gagné en savoir-faire. Et donc tous ces allers-retours, ils sont totalement fluide et maîtrisé. Les révélations passées, présentes, elles arrivent juste quand il faut distiller comme il faut. Et on est complètement emporté par cette saga. C'est à la fois une saga historique, une saga familiale. C'est un roman initiatique, puisqu'on a cet homme qui est plus un jeune, mais qui finalement a subi jusque-là, puis qui va se réveiller. c'est une enquête qui est autant historique que policière, et puis surtout c'est un roman qui nous ramène sur toute la notion d'héroïsme d'un XXe siècle, où finalement, comme on a fabriqué des héros parce qu'on voulait des héros, mais quand on fabrique un héros, on oublie un peu l'homme qu'il y a derrière, parce que forcément...
Ça arrive aussi dans les romans d'ailleurs. Des fois.
Ça arrive aussi
dans les mauvais romans noirs, ça arrive.
Oui, ça arrive. Ben voilà, c'est ça. Il enlève les masques du héros. Belle Arbol. Enfin, c'est une des choses qu'il fait, parce qu'il y a énormément de choses dans ce roman. Il y a l'affrontement aussi entre Elias Gil et le fameux Igor, qui sont un peu finalement deux faces d'une même. D'un même goût de la violence, avec d'un côté Igor qui lui est une espèce d'homme qui n'est limité par rien, il ne cherche pas à prouver quoi que ce soit, il veut son propre, c'est sa personne qui lui importe et il ne vénère que la violence, mais derrière on s'aperçoit petit à petit qu'Elias Gil peut être aussi violent que lui, sauf que lui se cache derrière un certain nombre de masques qui justifient sa violence. On a tout ça. Alors tout ça c'est très très riche. Il y a attention, il n'y a pas de concession, il n'y a pas d'angélisme, il n'y a pas beaucoup de bons, il n'y a pas beaucoup de personnages à part quelques-uns auxquels se raccrocher, et le récit va jusqu'au bout d'une logique qui est finit forcément mal, et il n'a pas de pitié pour les personnages, il n'a pas de pitié pour le lecteur non plus.
Oui, ça c'est... Donc, on l'avait déjà un petit peu remarqué.
Voilà, mais là c'est clair. Voilà, c'est clair, et pourtant il a beaucoup d'empathie en même temps. Il a beaucoup d'empathie pour ses personnages. Et puis il m'arrive de trouver qu'on a souvent des pavés un peu indigestes et puis un peu qui rallongent de façon pas toujours utile. Là, je dois dire que les 600 pages, elles passent parfaitement, elles emportent tout, tellement il y a de puissance et tellement c'est bien, c'est fluide et c'est bien fait.
Ouais, mais c'est un, comme vous dites, il sait très bien mettre de l'empathie et parler vraiment des êtres humains. Et moi, ce que j'ai remarqué à travers les deux premiers que j'ai lus, c'est une façon très subtile de décrire la souffrance. Et ça, il n'y a pas énormément de gens sans que ça dégouline de bons sentiments ou que ce soit plutôt maladroit. Et je trouve qu'il a une façon très crue d'aborder la souffrance de l'être humain et il sait très bien le faire.
Oui, c'est vrai que c'est un thème récurrent aussi, ça, et puis la vengeance.
Oui, tout à fait.
Et puis la vengeance, et puis là, ce qu'on voit aussi, c'est la révolte, c'est-à-dire la révolte de ceux qui disent non, on n'est pas des moutons. Le titre espagnol, d'ailleurs, est lié à ça, ça s'appelle « Un million de gouttes » en espagnol, et c'est lié à une phrase qui, je ne me souviens plus d'où elle est tirée, où on demande, à un moment, il demande à la sœur de Gonzalo, quelqu'un lui demande pourquoi elle fait ce qu'elle fait, ce n'est qu'une goutte ce qu'elle fait au milieu de tout l'océan, et elle dit, mais qu'est-ce que l'océan, sinon l'assemblage d'un million de gouttes. Voilà, donc c'est ça aussi, la prise de responsabilité à un moment, pas forcément en faisant des grands gestes héroïques, mais juste en étant cohérent avec ses valeurs. Il y a ça aussi dedans,
il y a beaucoup à méditer. Cette idée dans les temps qui courent, je trouve.
En tous les cas, aux États-Unis, en Espagne, il doit bien marcher parce que j'ai lu qu'il en était à sa 5e réédition et ça fait moins d'un an qu'il est sorti.
Oui, et puis je crois qu'il a, pour avoir vu des rencontres, il a trouvé un public en France aussi. Hein. Il a vraiment des gens maintenant qui attendent le nouveau Victor Del Arbol avec impatience.
Oui,
très bien.
Il est en France d'ailleurs, il tourne donc. Les auditeurs peuvent peut-être trouver sur Internet des librairies ou des médiathèques où il est. En tout cas, il sera à Quai du Polar la semaine prochaine, dans une dizaine de jours. Et puis, je pense qu'il fait la promotion de son livre aussi dans le sud de la France, que ce soit dans le sud-ouest ou dans le sud-est.
Bah, il est déjà passé à Toulouse. Et voilà. Si vous avez l'occasion, allez le voir, parce que en plus d'être un très, très bon écrivain, il est très sympathique et très intéressant.
Passionnant, tout à fait. Eh bien, Jean-Marc, merci beaucoup. Donc,
merci
de bonnes lectures futures. Et puis, à très bientôt dans Onde Noire.
À bientôt et bonne émission.
Merci beaucoup. Donc, Jacques, un petit peu de musique.
Un petit peu de musique, oui. Une chanson qui s'appelle « Vivre », qui est une chanson, une composition de Christian Roux et extrait de son album qui était paru en 2009. L'album s'appelait « Goutte à goutte ». Et dans cette chanson, Christian joue de la guitare, du piano. Il chante aussi, mais c'est surtout... Nicole Champenois, qui était sa compagne, qui chante, et ben on va l'écouter.
Voilà. Et c'est l'occasion d'écouter, on l'écoutera encore, mais voilà, une voix qui a disparu. Donc on écoute Vivre. «
juste le temps de voir venir. Vivre à peine plus long manque un soupir. Vivre sans rien entendre, sans rien dire. Vivre de l'aube au soir sans un sourire. Vivre sa vie comme la seule chose que l'on sache faire. Vivre sa vie sans s'en défaire. Vivre dans l'espoir d'un jour se survivre. Vivre sur une barque et fixer la rive. Sans accepter quelques dérives. Vivre sans réfléchir, seulement frémir. Ou vivre sa vie comme la seule chose qu'on ait à perdre. Vivre sa vie, pas la maudire. Sa vie comme la première ou la dernière. Vivre sa vie sans se flétrir.
Thank you.
C'était Nicole Champenois, une petite goutte parmi ces millions de gouttes, encore présente. Voilà, on va continuer, on va rester en Espagne pour rendre un petit hommage à un grand écrivain qui a disparu il y a quelques jours, Francisco González Ledesma, à pratiquement 90 ans. Donc, comme son âge l'indique, c'est comme Montalbán, Manuel Vázquez Montalbán. C'est un homme qui avait connu et subi la dictature franquiste et toute son œuvre en est empreinte, comme tu dis. Et il a été journaliste toute sa vie, il est écrivain depuis longtemps, d'abord censuré, et puis en 77, un premier roman, Les ombres du passé, traduit d'ailleurs bien bien tard en France. Et Ledesma, ce qui le caractérise, c'est la manière extraordinaire dont il a de parler des gens qu'il a côtoyés dans le petit quartier, le quartier humble, le quartier ouvrier, le Poblet Sec, je ne sais pas, mon accent doit être abominable. Voilà, il est né dans un quartier populaire, dans un quartier pauvre, et il avait une façon et une empathie pour parler des gens de ce quartier, des autres quartiers, du Barrio Chino, dans les vieilles rues de Barcelone, dans le vieux Barcelone. Il avait une façon de parler des femmes absolument extraordinaire. Il faut lire en particulier un chef-d'œuvre. C'est parmi le top 10 de mes polars, de mes romans noirs et de mes romans tout court. Pourquoi je dis romans noirs ? Voilà, c'est un roman qui s'appelle La Dame de Cachemire, qui est un des romans qui met en scène un flic absolument magnifique. J'aime pas beaucoup les flics. Faut pas trop que je dise ça, mais j'aime pas beaucoup les flics dans les romans. Et cet inspecteur Mendez, c'est juste un bel être humain, voilà, qui a beaucoup d'empathie pour les gens qu'il va voir, pour les victimes, pour les bourreaux, pour tous ceux qu'il va côtoyer lors de ses enquêtes. Et dans La Dame de Cachemire, il va comme ça croiser et recroiser quatre femmes, tout aussi mystérieuses, tout aussi étonnantes les unes que les autres. Et c'est certainement un des romans où je trouve où on parle le mieux des femmes. Donc ça s'appelle La Dame de Cachemire, mais il y a beaucoup d'autres romans de Ledesma qu'il faut découvrir, en particulier.
Est-ce qu'elles sont très souvent avec l'inspecteur Mendez qui revient,
voilà,
revient très régulièrement.
Et puis il y a une sorte de trilogie qui raconte un peu son Barcelone, qui sont vraiment très très bien. Donc là aussi, excusez mon accent, Los Napoleones. Après, c'est pratique, c'est en français. Le dossier Barcelone et Los Simbolos. Voilà, ça c'est des romans un petit peu anciens. Et l'année dernière, Rivage Thriller sortait une, je ne sais pas si c'est une dernière aventure de l'inspecteur Mendez, qui s'appelle Des morts bien pires. Et on cite un de ses traducteurs, qui était aussi de son ami, qui nous a fait passer ces très très beaux textes. Donc c'est important de citer les traducteurs, c'est eux qui nous permettent de profiter de ces belles paroles. Voilà, son traducteur et son ami s'appellent Jean-Jacques Fleury. Voilà, un petit coucou à Ledesma. Je crois que la majorité de ces romans sont republiés en poche, donc vous pouvez en profiter pour avec des romans pas très chers, mais sinon dans les bibliothèques il y en a plein des romans de Francisco González.
Et La Dame de Cachemire est absolument immanquable.
Voilà, on répète, La Dame de Cachemire de Ledesma. À tout à l'heure.